Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Dans l'Évangile de Matthieu, nous lisons. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et lui dit « Maître, aide-moi. » Jésus répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande ! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même.
Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire « Si un immigré vient séjourner chez vous, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous le traiterez comme un autochtone. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des immigrés en Égypte. » Un rappel de la condition du peuple hébreu qui revient même à plusieurs reprises, qu'il s'agisse du code deutéronomique, tu n'opprimeras pas le salarié pauvre ou déshérité, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés qui sont dans tes villes, dans ton pays. Vous le voyez comme un leitmotiv qui reviendrait, qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Est-ce que Jésus, qui était maître de la loi, qui était rabbi, a-t-il pu oublier ses commandements ? Non. Alors pourquoi hésite-t-il autant avant d'exaucer cette femme ? C'est le thème ici de la préférence nationale qui est évoquée sans complexe et qui nous renvoie aujourd'hui à des slogans politiques bien connus, en France et je dirais même en Alsace plus particulièrement. Ce texte nous dérange car même si la morale est sauve, il présente une image de Jésus et vous l'avez tous remarqué, une image de Jésus à laquelle nous ne sommes pas habitués. Alors qu'on voudrait qu'il fasse exactement ce qu'on attendrait de lui, c'est-à-dire être l'incarnation de l'amour, être la perfection, celui qui fait toujours le bon acte au bon moment, la bonne parole, qui fait du bien, toujours. Il réagit de manière violente. Et ce faisant, il nous renvoie à notre propre violence, à nos propres réactions dans des situations telles que celle-là. La question qu'on s'est posée, c'est comment auriez-vous réagi à sa place ? C'est que même si nous aimerions, a priori, aider les plus petits, les plus faibles, les malades, au fond, ça ne nous arrange pas vraiment. Est-ce qu'on agit toujours dans la vie comme on pense qu'on aurait agi à la place de Jésus ? Non. Et Jésus lui-même, justement, ne nous indique pas une réponse prédéfinie. Ce serait trop facile et on a trop souvent fait de lui juste le modèle qu'il faudrait imiter. Et le thème de l'imitation de Jésus-Christ est très présent dans le christianisme. On a un modèle, c'est pas compliqué. Faites comme lui. Ici, ce n'est pas le cas. Et ça nous montre que la solution n'est pas aussi facile que ça. À la fois, ça nous déculpabilise, et en même temps, on se rend compte qu'il faut trouver une autre solution. Jésus, dans le texte, infléchit sa position après avoir été à l'écoute. C'est le dialogue qui l'influence. Ce texte, en fait, nous dit, aujourd'hui, les paroles ont un poids. Les paroles ont un poids. Et quand on discute avec quelqu'un, quand on l'écoute, eh bien, on peut le faire changer d'avis. La faiblesse, c'est une des questions qui était posée. Est-elle ici une stratégie ? Est-ce qu'il y a une mise en scène de la faiblesse de la part de cette femme, comme on peut le voir aussi aujourd'hui parfois dans nos rues, une mise en scène de la faiblesse ? Quoi qu'il en soit, dans la confrontation, dans le débat et la demande, Jésus est transformé. Il bouge, sa position évolue. Alors qu'il est le maître, il accepte de se laisser déplacer. Le petit, la faiblesse, la fragilité sont pointés ici comme étant essentiels à l'être humain en ce qu'ils le font grandir. Il y a un avant et un après la rencontre. Ici, c'est Jésus qui a besoin de l'autre pour avancer, pour en fait devenir Jésus. Pour devenir lui-même, il va avoir besoin de plus petit que soi, de plus faible. On peut penser ici à un autre texte, c'est celui de la lutte entre Jacob et l'ange. « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni, » dit Jacob, après s'être battu toute la nuit. Une demande, là aussi. Demandez et on vous donnera, mais encore faut-il demander. Et c'est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on ose demander ? Est-ce qu'on sait demander ? Je prenais l'exemple, je suis toujours frappé dans le métro à Paris, les femmes qui ont une poussette, quand elles sortent du métro, ne demandent pas qu'on les aide. Elles attendent que dans le flot de dizaines de personnes qui sortent, il y en ait un qui remarque et qui s'arrête. Mais il n'y a pas de demande, il y a un regard un peu implicite, implorant. Se laisser changer, se laisser transformer, ne pas laisser tomber les plus petits, pas simplement avec l'idée qu'il faut les aider, mais comme dans ce texte, que c'est nous qui allons être aidés par le fait de ne pas laisser tomber les plus petits. Le troisième regard que nous avons porté sur Jésus, s'engager, d'accord, mais jusqu'où ? Jésus est capable de donner sa vie pour ce qu'il croit. Nous avons tous des convictions et nous voulons en général les faire valoir, mais à quel prix ? Celui qui gagne est bien souvent celui qui est prêt à mettre le plus de prix. Est-ce que je suis prêt à mettre le prix pour ce que je crois ? Et pour ce que croit un autre que moi, nous avons pu voir à partir des textes qui concernent Jésus que la révolte et l'engagement ne sont pas innés, qu'ils ne naissent pas non plus du jour au lendemain, mais qu'ils sont progressifs. Et Jésus lui-même passe par une forme d'évolution personnelle qui commence par, disons, la transgression. C'est l'histoire, on l'a vu ensemble, des épis arrachés. Jésus, un jour, traverse les champs de blé. Ses disciples cueillent des épis, se font rabrouer par les pharisiens et Jésus les défend. Avec ce premier texte, on observe une révolte en groupe. C'est sans doute plus facile. La transgression, la désobéissance sont rendues en quelque sorte légitimes parce qu'une loi est jugée caduque. Et face à cette loi qui n'est plus légitime, qui est rendue caduque, Jésus ose une parole contre ceux qui se veulent être justement les tenants de la loi. La possibilité de transgresser une loi est ici posée, avec en arrière-fond l'idée qu'il faut pouvoir s'approprier les règles. Si on veut vivre dans un cadre, si on veut respecter des règles, il faut se les approprier. Il faut les comprendre pour ne pas les subir, pour pouvoir les remettre en question quand elles deviennent caduques ou alors trop autoritaires. Et on peut alors passer de la transgression à l'engagement, c'est-à-dire finalement d'une forme d'opposition contre à un engagement positif, défendre une idée. Et donc on passe de la transgression à l'engagement, avec un deuxième texte qu'on avait travaillé ensemble, une histoire qui nous raconte comment Jésus était aussi capable de se fâcher, de devenir violent. Dans le temple, un jour il rentre, la fête de la Pâque était proche, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Qu'est-ce qui vaut la peine aujourd'hui de se mettre en colère? Quelle situation m'a déjà poussé à m'engager par des mots ou par des actes? Ça commence très tôt, on s'en rend parfois pas compte, mais ce temps de réflexion autour du texte nous a montré que chacune et chacun était concerné par des actes de violence au nom d'une idée. Est-ce que mes idées, mes actes m'ont valu de m'isoler ou de me faire mal voir par les autres? Est-ce qu'on peut s'engager quand on est seul contre tous? Est-ce que c'est bien vu de se mettre en colère? Et une fois qu'on s'est engagé, où on s'arrête? Jusqu'où on va? L'engagement jusqu'où? Jésus y répond. Il s'engage jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, un mot qui nous heurte. À Pilate, Jésus dit « Mon royaume n'appartient pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Ce à quoi Pilate répond « Mais qu'est-ce que la vérité ? » Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'on est prêt à s'engager pour la vérité? Il y a un point de non-retour quand l'engagement dépasse la personne qui se retrouve portée par cet engagement et qui ne le maîtrise plus. On le voit avec Jésus qui va jusqu'à donner sa vie, mais qui là non plus ne dit pas qu'il faut le suivre dans ce choix. La Bible insiste à plusieurs reprises sur le caractère unique de cet engagement de Jésus-Christ. La radicalité de l'action en fait un exemple une fois pour toutes. Nous sommes ici, aujourd'hui, et je terminerai par là, au bénéfice de cette action. Pas dans une situation de culpabilité, mais au contraire de reconnaissance. Il ne s'agit pas de dire « je vais faire pareil », mais de bien mesurer l'ampleur de ce qui a été fait pour nous. C'est que l'engagement, comme un cadeau, peut se donner ou se recevoir. Une forme d'engagement que nous pouvons, j'allais dire toutes et tous, ce serait presque trop, mais que beaucoup d'entre nous peuvent oser ce matin, c'est confesser la foi. S'engager en disant ce qu'on croit, c'est déjà un grand pas.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.